Les conférences du Collège de France.
Bonjour. Il y a une semaine, nous nous sommes laissés en commentant la position hiérarchiquement élevée du scribe dans la compilation lexicale actuellement connue sous le nom des listes des noms et des professions que vous voyez, qui est certainement un produit de l'école scribale de Kish, dont nous avons des copies d'Abu Salabih, fort probablement l'ancienne Eresh et d'Ebla. Aujourd'hui, je commencerai par quelques annotations pessimistes, bien fondées de la réalité, dont j'espère m'éloigner ensuite en produisant des observations qui peuvent conduire à regarder l'avenir des études de Blaït avec confiance et optimisme. Mais commençons avec le pessimisme. Il y a quelques ans, un grand savant a résumé les voyages d'une autre et comparable liste lexicale mésopotamienne d'Abu Salabih à Ebla dans un texte plein d'expressions décourageantes comme « there is no way » pour nous de savoir quelque chose et « il nous est unknown, inconnu, comment quelque chose » et vous le voyez noté en jaune. Il avait raison de nous rappeler que dans ce cas précis de cette liste, nous ne pouvons produire qu'une simplification historique. Les incertitudes et les ambiguïtés du système graphique héblaïte ont été jugées, avec de bonnes raisons, comme empêchant une reconstruction linguistique fiable. Et vous voyez comment Manfred Krebernick a dit tout ça il y a quelques années. Cependant, le problème est compliqué par le fait que, quelquefois, nos analyses comportent encore trop d'imprécisions concernant les textes eux-mêmes. Et un exemple est montré ici. Il y a une discussion de cette graphie à Zamiga avec une bonne quantité de remarques importantes. Le problème, c'est qu'Azamiga n'existe pas. En réalité, c'est Azimiga ou Azamega et une forme reliée à Azamedou et à partir des contextes des incantations où elle est attestée. Et probablement, on peut aujourd'hui dire que le syllabogramme for id n'est pas absent du syllabaire héblaïte. On a un syllabogramme pour id, it. Et vous voyez qu'ici, on a analysé Azamedou, Azamega, Azimiga comme des formes de l'accompli. Mais vous voyez que la traduction allemande du texte, en réalité, c'est-à-dire les formes précises dans leur contexte, ont conduit un autre grand collègue à proposer que ce n'est pas de l'accompli. Donc il y a une situation encore compliquée parce que nous avons des problèmes et le vrai grand problème est pourquoi la lettre 2 est disparue de cette graphie-là. Donc il y a des incertitudes anciennes et des incertitudes modernes. Ce qui reste vrai est que les textes cunéiformes d'Ebla pré-sargonique sont très isolés. Et j'ai résumé ici la situation actuelle des sources textuelles pré-sargoniques des régions qui sont certainement mentionnées dans les textes héblaïtes. Nous le savons à partir de la documentation administrative qui est absolument claire et formidable parce que l'horizon géographique des textes d'Ebla est énorme. On arrive à mentionner Bahreïn dans le golfe d'Ilmoun, on arrive à mentionner l'Égypte et presque certainement l'Anatolie. Donc l'horizon géographique est énorme. Je me suis limité ici à la situation contemporaine aux tablettes de Blas, sans parler des Sumères et de l'Égypte, qui au contraire sont bien documentés au niveau textuel. Et vous voyez que l'isolation d'Ebla est certainement forte dans sa propre région. En plus, 2/3 seulement des textes ont été publiés. Vous voyez que Marie, qui était certainement centrale dans la production des textes à l'époque, très important, et n'est pas documentée comme on aimerait bien de voir. Et Nagar est presque inconnu. Nabada est connu, mais malheureusement, elle est un centre secondaire, et donc la comparaison n'est pas parfaitement homogène. La ville de Khamasi, inconnue. Kish, qui est le grand centre mésopotamien dont la production était bien, textuelle était bien connue, et Ebla est très mal documentée. Et Anatolie est dans le Levant, il n'y a rien. Donc la situation est permis d'avoir la deuxième pessimistic slide. En ce qui concerne les ouvrages de référence, troisième point, pour nous, modernes, qui étudions ces domaines, le principal problème est qu'il n'existe pas un catalogue complet, tandis que les éditions scientifiques des textes, dont seulement 2/3 sont disponibles, montrent une qualité inégale et souvent médiocre. Les études secondaires sur la paléographie, la grammaire et l'onomastique sont récentes. Quant au vocabulaire, il n'existe pas encore un outil complet et convaincant. Et on le verra si, dans 2 ou 3 ans, mon glossaire en préparation comblera cette lacune. Et vous voyez à droite, partiel, limité, obsolète, non spécifique, inclut mon travail, hein, absolument vieilli et à jeter à la poubelle. Donc il faut se battre pour améliorer toute cette série de produits modernes qui peuvent nous aider pour améliorer notre compréhension. Je crois que la partie pessimiste termine ici, parce qu'en assyriologie, lorsque les choses vont mal, il est bon de revenir au texte ancien, en négligeant le texte moderne. Et alors, je reviens à cette situation que j'avais commencé la dernière fois à discuter. Il y a les colophons de 6 listes lexicales sumériennes des traditions mésopotamiennes qui sont importants. Les textes ont été trouvés à Ebla et il contient à la fin des références aux scribes. Et maintenant, je commence à discuter les scribes d'Ebla, c'est-à-dire les gens qui ont fait les tablettes que nous lisons et nous essayons de comprendre. Il y a 3 noms de personnes et 3 noms de métiers. Les colophons est celui-là. Azi, Ipturishar et Mdamdail sont des noms de personnes et les noms de métiers sont Dub Musar, Dub Zuzu et Ummia, des métiers ou des professions. Ces colophons réfèrent que M. Azi était le Dub Musar, M. Ipturishar était le Dub Zuzu, Abba, et M. Mdamdail était l'Ummia de M. Azi. Il s'agit d'une indication très importante qui peut être traduite. Azi est le copiste, Ipturishar a été l'instructeur ancien, Mdamdail est le maître d'Azi. Les listes lexicales bilingues d'Ebla, la liste, a une petite section de 3 entrées contenant le terme sumérien pour tablette, Dub, que vous voyez au début. Suivi des verbes sar, graver, imprimer, et zu, savoir, connaître. Ce terme exprime d'une part la notion des scribes et des copistes, tous deux non traduites en sémitique, et d'autre part la notion d'instructeur, spécialiste, expert. Il y a cette traduction de dubzuzu avec ummeianum, qui à la fois est un emprunt du sumérien ummia. Il semble certain que Azi et Mdamdail étaient 2 scribes d'Ebla qui ont réalisé les 6 tablettes en question, alors que moins claire est la position de Ipturishar, qui peut-être était un scribe eblaïte qui aurait opéré à un stade chronologique antérieur à celui d'Azi et Mdamdail. Si nous examinons ensuite la fonction de Mdamdail, Dubzuzu, un meano d'ubzuso, on peut le dire, qui agit en tant qu'instructeur d'Asie, nous constatons que l'utilisation de d'ubzuso dans les textes de la pratique est assez surprenante. Ce terme d'ubzuso apparaît dans des contextes se référant à la fois aux hommes, acrobates, archers, barbiers, charrons, et aux femmes, danseuses, vignerons et tisseuses. Il y a des raisons d'ordre syntactique pour penser que, à la fois, ces sumérogrammes d'ubzuso étaient utilisés, 1. À la place du nom masculin sémitique équivalent « instructeur », 2. À la place de son homologue féminin « instructrice », et à la place, 3. De différentes formes du verbe « instruire ». Ainsi, plutôt qu'un logogramme, d'ubzuso fonctionne comme un idéogramme, utilisé pour désigner la notion d'instruction. Ici, en bas, vous voyez que la situation des colophons des listes lexicales et des textes religieux des traditions mésopotamiques trouvés à Ebla est un peu plus complexe. Parce qu'à côté de ce colophon dont je viens de parler, il y en a encore deux. Tiraïl n'est pas mentionné, il est un homme, pas mentionné ici, mais Iptu-Rishar et Asi sont mentionnés ici. Donc il y a une petite communauté de gens qui ont laissé leur nom à la fin de ce texte externe qui vient de la Mésopotamie et qui ont fonctionné comme copistes, mais dans une situation certainement chorale. Je veux dire, on n'est pas pensé à un auteur seul, mais il faut penser à un petit groupe de savants, de collègues anciens qui discutaient et produisaient les textes. Mais les textes étaient accompagnés certainement d'une discussion orale. Pendant la réalisation des tablettes elles-mêmes et probablement après, en vue de successives productions. La terminologie qui maintenant nous intéresse peut être tabulée en cette manière. Il ne s'agit pas seulement des scribes et des tablettes cunéiformes. En effet, j'ai ajouté les termes nigmul, qui désigne certainement un message, une information, une nouvelle que quelqu'un apporte à quelqu'un d'autre à une distance considérable et dont l'importance contextuelle était telle que les scribes des textes de la pratique l'ont noté pour expliquer la motivation de la transaction économique qu'ils étaient en train d'enregistrer. On voit que cet ensemble d'attestations dépasse les 800, au moins dans les textes hébraïques dont j'ai connaissance. Donc c'est une quantité considérable. Un examen préliminaire de cette documentation assez impressionnante, ainsi que des diverses autres données textuelles complémentaires éparpillées ici ou là dans la documentation, permet de résumer, de la manière que vous voyez ici, certains aspects de la circulation des personnes et des objets liés à la literacy. Je ne me souviens jamais quelle est la bonne traduction française de literacy. En italien, ça n'existe pas en réalité. Il faut... Parce que l'alphabétisation, c'est anachronistique. Et il en résulte que, déjà à l'époque pré-sargonique, les soins et les soucis de la transmission d'informations considérés comme un véritable patrimoine, soins et soucis que l'on retrouve de manière beaucoup plus explicite dans les documents textuels plus récents, étaient déjà au centre des préoccupations des élites d'Ebla. Et je montre ici un seau cylindre avec le nom d'un fonctionnaire. Ici, les sauts cylindres peuvent voyager, ce sont des objets petits qu'on peut mettre dans la poche, donc, mais pas seulement les sauts cylindres naturellement circulaient, ils circulaient des tablettes, c'est sûr ça, et des spécialistes. Et ici j'ai fait une liste mais incomplète de gens qui, d'une manière ou de l'autre, sont liés à la capacité de, bon, de lire, d'écrire et de causer les conditions au contour pour l'écriture et la lecture de tablettes et d'autres objets inscrits. Et donc, un problème futur est de déterminer d'une manière claire l'importance relative, les positions relatives des tablettes et des messages nouvelles, c'est-à-dire de textes qui peut-être n'étaient pas figés dans une tablette d'argile, peut-être des textes oraux, peut-être des textes oraux qui étaient à la base d'une notation dure dans un support comme l'argile. Et je vous souvenais peut-être qu'auparavant j'ai discuté la question du syllabogramme Roudouze, qui n'est pas utilisé, il semble, en Mésopotamie, mais que les scribes de Blas ont utilisé à partir d'un texte oral, probablement la simple mention d'un homme étranger qui avait la syllabe Rou et qui était donc textualisé avec Roudouze et pas avec Rouen. Passons maintenant aux personnes qui, selon cette documentation de Blas, ont été professionnellement impliquées dans la textualisation des faits et croyances. Avant de rendre compte de données textuelles directes, je peux dire qu'il s'agit toujours d'hommes. Ma connaissance, il n'y a pas à Blas Pressargonique des femmes scribes et il n'y a pas une correspondance cunéiforme féminine. Comme au contraire on le constate pour des périodes successives. La distance chronologique avec Enchedouana, une femme bien connue, est de toute façon minime et quoi que l'on pense de la fille de Sargon d'Akkad, je ne me sens pas en mesure d'exclure a priori que de nouvelles données puissent changer la situation. Mais pour l'instant, l'écriture à Ebla semble avoir été limité aux hommes. Positivement, cet enregistrement ici, dans un normal texte administratif, montre la participation active d'une femme de rang très élevé, elle était la mère du roi, dans les processus de transmission d'une information. Une information cruciale dans ce cas, car à mon avis, il s'agit de la fertilité de sa belle-fille, la nouvelle et dernière reine de Blas Pressargonique. Il y a d'autres interprétations. Je préfère une interprétation liée à la fertilité de la jeune fille. Mais c'est sûr qu'on a textualisé dans cette manière, dans un texte administratif, donc dans un texte qui n'avait aucun intérêt à reproduire d'une manière précise la réalité qui était à textualiser. Mais on a textualisé le fait que quelqu'un a amené une nouvelle, un message, à propos d'un autre texte, un omen, le résultat d'une procédure divinatoire, et qui est arrivé aux oreilles de cette femme, évidemment dans une situation pas politique, parce que c'est une affaire interne, bon, même politique également, mais en tout cas dans une situation cruciale, parce qu'on parle du niveau plus élevé de l'élite de Blas. Je connais, maintenant il y a des diapositives un peu pleines de données, mais je connais 70 attestations pertinentes de termes, de noms de professions que nous avons discutées dans les colophons de liste, donc dans un petit domaine. Ici, je fais référence au texte de la pratique, donc dans une quantité de tablettes beaucoup, beaucoup plus large, milliers de tablettes. Ces 70 attestations font référence aux deux groupes d'hommes, 1 et 2, que j'ai tabulé ici. À gauche, il y a les noms personnels des 14 scribes dont on a des renseignements dans les textes de la pratique. Et à droite, les noms d'autres scribes qui, en majorité, ceux en blanc, ne sont pas des Hébraïtes, mais plutôt des Mésopotamiens. Alors, je ne discuterai pas ce dernier groupe, les blancs, les Mésopotamiens en blanc ici, les étrangers, dans lesquels probablement trois Dubzouzou, instructeurs Abou Malik, Boudabat et Ipturisher, peuvent être isolés, parce qu'il avait peut-être vécu avant la période proche de la destruction finale du palais G, quand les tablettes que nous avons ont été produites. Donc peut-être ces trois hommes éblaïtes en jaune sont des ancêtres, des gens qui appartiennent à des générations précédentes. Plutôt, je tiens à prononcer les noms des 14 scribes. Et la prononciation d'un nom est importante. À cette distance, nous connaissons qui a fait les tablettes. Et donc, il s'agit de Messier Aboukoura, Messier Aterni, Azi, Abné, Arshum, Baza, Damdaïl, Ikshupu, Ilsibed, Bel, Ipkourni, Ir Iba, Nami, Rutsi Malik, ou Malku, et Tiraïl. Quelques informations relatives à cet homme sont significatives. Elles sont entre parenthèses, sont des renseignements qui viennent des textes de la pratique. On voit que beaucoup d'entre eux ont voyagé ou dans les royaumes sont entrés en contact avec des étrangers qui parlaient des idiomes souvent très différents. Quatre scribes ont voyagé vers l'est, le long de l'Euphrate, à Emar et Mari, ou jusqu'au Lechabour et les Tigres, à Nagar et à Hamazi. Deux ont eu des contacts avec le royaume anatolique, en tout cas du nord, Ibouib et Armi. C'est là. Un est mentionné en relation avec Carchemish, qui à l'époque n'était pas un royaume, mais il était déjà un site très important, car il contrôlait un gué stratégique sur l'Euphrate. Quant aux scribes qui semblent avoir eu une activité plus locale au sein du royaume éblaïte, il est intéressant de noter que trois d'entre eux sont mentionnés en relation opérationnelle avec deux membres de la famille de l'élite éblat présargonique qui n'étaient dépassés que par la famille royale, à laquelle d'ailleurs cette famille était étroitement liée. Je me réfère à Ibizikir et à Dubuhuada, son fils. Le rôle de ministre pour Ibizikir, qui a été répété sans cesse, à mon avis, ne repose sur aucune donnée textuelle contraignante. Mais c'est sûr que les pères Ibizikir et les fils Dubuhuada ont eu ont joué un rôle central, très important, dans les dernières années avant la destruction du palais G. Ce dernier donné, à propos de Ibizikir et Dubuhuada, et des scribes liés à cet homme, à ces hommes, sont intéressantes car nous voyons deux scribes agir en tant que huissiers de justice. Alors, c'est où? C'est Mashkim. Nami et Ilsibad, en couple, dans une tablette, ils sont rapportés avoir joué le rôle des Mashkim. Je crois que huissier de justice est peut-être correct, c'est un peu ancien, peut-être dans votre langue et dans ma langue aussi, mais c'est quelqu'un qui avait une fonction évidemment très importante. Il y a beaucoup de renseignements sur le Mashkim Debla. Et en plus, cet homme-là, Abné, certainement, il appartenait à la maison de Dubuhuad. Donc, on a une information sûre sur le fait que les scribes n'étaient pas à Ebla seulement au service du roi, mais qu'il y avait des scribes qui travaillaient pour d'autres hommes appartenant à l'élite. Au fond, presque tout, pas tout, mais presque tout, ce nom font référence aux dernières années des vies des archives cunéiformes de Blas et pendant le règne du dernier roi, Ish-Ardamu. Donc, on a la preuve. Et cet homme-là, probablement, il a travaillé pour les rois précédents, Irkab-Damu. Donc, on peut dire que quatre administrations sont documentées. Deux rois, Irkab-Damu et Ish-Ardamu, ont eu leurs scribes, dont les noms sont conservés, et Ibizikir et son fils Dubuhuad ont eu probablement les mêmes serviteurs, les mêmes fonctionnaires. Et c'est intéressant, ce point-là de M. Abné, parce que nous avons les lettres écrites par Dubuhuad à son père Ibizikir et à son roi Ish-Ardamu. Donc peut-être on a les noms de quelqu'un qui a écrit des tablettes que nous pouvons lire et interpréter. Plus en général, et vous voyez ici la comparaison que je vais faire, un nombre aussi faible des scribes héblaïtes, une quinzaine, contraste fortement avec ce que nous savons de la Mésopotamie, du moins d'une Mésopotamie comparable comme celle, un peu plus ancien, c'est vrai, des Shurupak, de la ville de Shurupak à Phara, dont les textes font état d'une centaine de scribes. Et ça, c'est un fait. Alors, je ne suis pas sûr que nous avons la liste complète des scribes de Blas. C'est possible que quelques noms ne soient pas arrivés à nous. En tout cas, pour l'instant, si on veut être précis, il faut dire que nous connaissons autour de 15 scribes de Blas, ce qui n'est pas grand-chose. Mais ça, ce n'est pas tout. Dans les textes présargoniques de Blas, d'autres attestations des scribes complètent le tableau de manière significative. Je commenterai brièvement ces données de Ba'ano. Un texte mathématique témoigne des contacts avec l'école scribale de Kish, un texte mathématique trouvé à Ebla. Et ce texte nous donne probablement les noms sémitiques d'un des scribes de Kish, Ishmael. Les autres attestations concernent des scribes anonymes. 1, 2, 3. Il n'y a pas les noms propres. Trois jeunes scribes de Hachouan, dans deux textes différents, sont mentionnés. Hachouan était un royaume dont on ne connaît pas la localisation précise, mais c'est sûr qu'il était au nord de Blas et probablement dans la région de Gaziantep, donc aujourd'hui dans le sud de la Turquie. Ces trois jeunes scribes ont visité le royaume de Blas. La raison pour cette visite n'est pas donnée, parce que le texte est intéressé au tissu, à des choses différentes, aux biens matériaux, pas à l'histoire derrière cette visite. D'ailleurs, c'est une information très précieuse, car elle montre la diffusion du cunéiforme vers la Manus et les Taurus, les montagnes au nord, peu après les milieux du troisième millénaire avant notre ère. Ici, on voit un scribe en chef, un Dubsar-Mach, certainement originaire de Marie, et on le sait ça en étudiant le contexte général de cette tablette-là. Et nous voyons que ce scribe en chef a également visité Ebla. Les relations avec Marie sont cruciales pour la reconstruction de l'histoire des Blas et, à mon avis, et je ne suis pas le seul, les moments des partenariats cordiaux étaient la norme. Enfin, ici, il y a une annotation qui est devenue un peu célèbre dans la sériologie, parce qu'on peut lire que deux tablettes lexicales ont été écrites par M. Tirail, avec M. Yves de Richard derrière Tirail, dans une situation, je répète, difficile, chronologiquement difficile à comprendre. Mais Tirail a écrit ces deux tablettes et il a noté l'occasion quand les jeunes scribes des Blas en remontant le Frat, d'un aval à Nomont, ils sont rentrés à Ebla en provenant de Marie. Donc il y a aussi des notations des scribes anonymes. On ne connaît pas les noms des trois jeunes scribes de Hachouan. Je discute maintenant les scribes éblaïtes Azi et Damdaïl qu'on a vus auparavant. Pour le faire, il est nécessaire d'aborder leur attestation dans les trois sources du rituel royal des Blas, qui est une source textuelle historique très longue et complexe, formidable, sans comparaison, dont vous voyez ici les copies cunéformes. Le texte numéro 1, la source A, et vous voyez la complexité de la tablette. Le texte numéro 2, la source B, et le petit texte numéro 3, qui est une source qui présente une sélection de données fournies par la source B. Et donc, cette tablette fait partie du processus de formation du texte B. Alors, ici, vous voyez la portion textuelle parallèle où Azi et Damdaïl sont mentionnés dans les trois sources. Et j'ai utilisé les blancs, les noirs et les rouges pour différencier les différentes sections administratives. Chaque section commence avec une quantité de tissus, tous deux. Donc, on peut, au niveau administratif, le texte est assez facile. Le point, c'est de comprendre pourquoi il y a cette longue liste de 14 individus qui sont mentionnés dans un moment précis du rituel des Blas, rituel royal, quand les nouveaux rois et la nouvelle reine quittent Ebla pour faire un voyage qui dure quelques jours pour aller dans un endroit qui s'appelle Binash, dont la localisation est inconnue. Et on sait d'ailleurs que Binash était très important au niveau religieux. Donc, c'est un voyage certainement motivé par des questions religieuses qui arrive juste après ce qui, pour moi, est le centre du rituel, les mariages du nouveau roi et de la nouvelle reine. Donc, ce groupe de 14 personnes est... On peut faire une distinction entre 13 hommes et une femme. La dernière personne est une femme dont le nom propre n'est pas donné. Et très souvent, les noms propres de cet homme ne sont pas donnés. Par exemple, ici, il y a des tissus pour quelqu'un qui vient de la ville d'Arougou. Ou ici, il y a des tissus pour quelqu'un qui est Naibu Anzam. C'est une fonction. Quelquefois, il y a les noms propres. Basalu, le fils de Irda Malik, donc quelqu'un nommé à partir du père, ce qui n'étonne pas complètement, mais c'est remarquable, et Azi et Damdaïl. Et vous voyez qu'il n'y a pas ici Dubsar ou Dubmoussar ou Dubzouz ou quelque chose qui puisse explicitement nous dire que Azi et Damdaïl sont des scribes. Mais De manière convaincante, ceux qui ont publié ces rituels, il y a une trentaine d'années, ont immédiatement identifié Asi et Damdahil, ici non qualifiés des scribes, respectivement comme les Doub Moussar et l'Oumia, ou Doub Zouzou, de ces noms qui sont attestés dans les colophons que j'ai déjà montrés. Cependant, je ne peux pas être d'accord avec ce qui a été écrit plus récemment à ce sujet. Quelques remarques particulières. Ce n'est pas tant à cause d'inexactitude sur la relation hiérarchique et fonctionnelle entre Asi et Damdahil, ni à cause d'identification improbable, à mon avis, de cet homme et Nulum comme un troisième scribe. Je me trouve plutôt en désaccord sur la distance temporelle entre les rituels A et les rituels B. Parce qu'on a été soutenu que cette distance est à peu près de 20 années. Tandis que pour d'autres collègues, cette distance ne peut pas être calculée avec certitude. Tout ça touche un point crucial pour reconstruire la chronologie interne des textes de Blas, un sujet historique central qui, à mon avis, n'a pas encore été compris et que j'espère de toucher la semaine prochaine dans mon dernier cours. Ce diagramme, quelque peu complexe, montre les correspondances prosopographiques dans les trois sources. Il s'avère que nous connaissons les noms personnels de 5 hommes sur 13. Les hommes sont 13, il y a une femme 14. Et que 4 de ces 5 noms personnels sont les mêmes dans la source la plus ancienne et dans celle les deux plus récentes. Et on peut montrer ici, c'est un travail de prosopographie, mais assez facile à faire. Il a été fait au moment de la publication. Et il y a quelque chose de bizarre. Par exemple, l'homme d'Arougou n'est pas enregistré dans la dernière la source 3, la petite source, pour des raisons nous inconnues. Et il y a Amazaou, cet homme qui est le premier dans la liste, donc probablement il était le plus important. Très souvent, les tablettes de Blas adoptent s'il y a une liste à faire, adoptent des règles assez strictes pour mettre en ordre les noms propres. Et on peut voir encore une fois une tendance hiérarchique et haut rang élevé. Et en bas, rang moins élevé, et quelquefois centre-périphérie. Donc un mélange de verticalité et de géométrie plus large. Mais en tout cas, cet homme-là n'est pas attesté dans la liste suivante, il a été remplacé par Ennani, mais les autres, tous les autres sont les mêmes. Donc, je ne sais pas, dans une situation proche-rente ancienne, 20 années passent entre un texte et l'autre. Le texte est le même, le rituel est absolument le même, parallèle dans la textualisation et probablement parallèle dans la réalité, complètement répété. Et j'ai du mal à accepter que dans 20 années, 13 personnes sont restées les mêmes. La vie était courte, il y avait constamment des changements. Même si quelqu'un n'est pas mort, il y a constamment des déplacements, des bouleversements. Et accepter l'idée que la société, ces segments de la société est resté égal pour 20 années et on a répété après 20 ans avec les mêmes gens la même chose, pour moi, c'est un peu, statistiquement, c'est pas probable. Alors, quant au rôle qui n'est pas précisé de deux scribes, Asi et Damdahil, dans ce rituel, il faut noter un fait à côté de tout ça, de la prosopographie, de la discussion de l'importance des scribes. Il y a à côté de ça un fait qui, pour moi, est surprenant. Il a été noté, c'est pas moi que je le remarque aujourd'hui. Il a déjà été noté. Nous avons cinq graphies sémitiques dans ce rituel, avec un au début. Vous voyez, tous les graphies commencent avec la lettre 1 dans notre transcription moderne, translittération moderne, qui peuvent et ont été interprétées comme des formes de la première personne du pluriel commun. Nous, on. Nous, quelque chose, on. Et c'est très... Et ça, c'est indépendamment de notre compréhension. Et je me demande si c'est cette situation. Dans un texte rituel, il y a cinq fois, et peut-être plus, parce que peut-être quelques sumérogrammes peut être interprété comme premier commun plural. Il y a assez souvent, nous faisons ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de, qui me surprend et que, dont je pense qu'il faut un jour être plus attentif parce que c'est, je ne connais pas trop de parallèles et je me demande si ça serait-il une signature implicite de Asi et d'Amdaïl, deux scribes qui ensemble ont fait ces voyages et qui ont, et ça c'est difficile à dire, qui ont noté les deux textes. Et il y a des problèmes parce qu'on a vu précédemment qu'il y a des différences paléographiques entre les deux rituels, les deux tablettes. Donc, probablement, on ne peut pas dire qu'Asi et d'Amdaïl ont fait les deux tablettes. Il était présent aux événements enregistrés dans les tablettes, ça semble sûr, mais peut-être il y avait un troisième scribe ou une autre configuration que je n'arrive pas encore à comprendre. Il faut absolument étudier avec une paléographie fine la situation des sources. Après tous ces détails philologiques, je sais maintenant, alors que j'entame la dernière partie de mon cours ici au Collège de France, de passer à des sujets et des problèmes plus généraux. La langue d'Ebla a bien sûr été un objet d'étude dès les premières découvertes et la communauté scientifique, malheureusement, n'offre pas de solutions consensuelles sur l'existence ou non d'une langue éblaïte au sein de la famille sémitique. Et je parle d'aujourd'hui. Il y a encore un débat. Ça fait 50 ans de débat. Cependant, je suis intéressé ici par cette discussion car elle utilise la notion koiné mixte du type de celle que l'on retrouve plus tard dans les textes d'Amarna. Ça, c'est une bonne indication parce que à partir des indications comme ça, on peut enlever Ebla de son isolement et de la mettre dans un débat plus large qui puisse inclure d'autres régions, d'autres périodes et d'autres textes. Mais ça fait partie de la partie pessimiste de ma présentation. Sur un autre plan, il y a une vingtaine d'années, un grand historien a écrit quelque chose que je trouve aujourd'hui assez convaincant. Itamar Singer a écrit un autre développement important dans l'histoire culturelle du Proche-Orient ancien est la perception croissante d'un oïkoumène occidental couvrant l'Asie mineure, la Syrie et la Palestine. Un croissant levantin de cultures sèches, ça c'est une tradition qui ne va, mais il écrit Dry Farming Levantine Crescent, pour ainsi dire, qui se distingue à divers égards de l'unité culturelle mésopotamienne, bien qu'il ait été profondément influencé par cette dernière. La découverte historique des archives d'Ebla et les progrès considérables des études Mariotte au cours de la dernière génération, ont considérablement amélioré notre compréhension des fondements vieux syriens et amorites de cette unité culturelle occidentale qui a eu une influence décisive sur les premières cultures anatoliennes. Et vous voyez que Singer fait une distinction entre Old Syrian and Amorite, et Ebla devrait être ici Old Syrian, non Amorite. Et j'espère encore de discuter un peu ça la prochaine fois, mais je trouve que c'est dans très peu de mots, il a dit une chose excellente. En fait, à mon avis, il faut revenir à la conscience que la position géographique est fondamentale pour comprendre Ebla, et peut-être surtout Ebla presargonique. Ebla amorite, naturellement, c'est important, mais la géographie pour Ebla presargonique, pré-amorite, est peut-être encore plus fondamentale. Ceci dans la perspective, déterminée entre autres par la diffusion du cunéiforme au milieu du troisième millénaire, de ce que j'appellerais un levant élargi. Un levant qui s'étendant de Kültepe à la mer Rouge, de la Cilicie à Carchemish et Emar, et jusqu'aux oasis méridionales dont Taïma est la plus célèbre. Donc, Kültepe, la Cilicie, l'Euphrate syrien de Carchemish à Emar, plus ou moins, Ebla ici, la côte, le Levant méridion sud et la région des oasis dans l'Arabie du Nord-Ouest. L'écriture cunéiforme était pratiquée de manière intensive dans la vaste région, non seulement euphratique, mais aussi plus septentrionale, entre Hamasi et Naga et Haran, s'étendant de Kish à Ebla. Et alors, l'Euphrate est ici, mais le cunéiforme était pratiqué aussi au nord de l'Euphrate. Et Haran est quelque part ici. Et Kish et Ebla, qui étaient séparés par une distance de 800 km à vol d'oiseau, plus naturellement par route. Et il était relié par des routes en territoire plat qui ne sont pas difficiles au fond à emprunter. Plus au nord, le long des routes qui passaient par la lettrée Hachouan, quelque part ici, on a la preuve que ici les cunéiformes étaient pratiquées. Et des routes qui passaient pour la puissante armée, un grand problème dont je reviendrai, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. De nouvelles découvertes au nord de Blad, des nouvelles découvertes archéologiques à Kültepe, récentes, et sur d'autres sites anatoliens, ont ouvert récemment la voie à la possibilité d'avoir des nouvelles données textuelles, espérons-le, dans un avenir pas trop lointain, anatoliennes, d'une tablette, je parle de la possibilité d'avoir des tablettes à Kültepe, ok, et qui permettront, on peut l'espérer, de mieux expliquer des aspects cruciaux des premières phases du commerce à longue distance. Ebla et ce que l'on appellera plus tard Kanesh ou Nesha ne sont séparés que par 350 km, plus ou moins, à vol d'oiseau. Certes, ce sont des kilomètres beaucoup plus difficiles à parcourir en raison des hautes montagnes, mais quand même par des routes que étaient, il faut l'avouer, certainement praticables avec les technologies de l'époque. La grande découverte due à Van Nabiga, confirmée par Piotr Steinkeller, que Dugurashu indique l'Égypte dans les textes éblaïtes, a des conséquences énormes. La distance à vol d'oiseau entre Ebla et Memphis est un peu plus de 800 km, donc comparable à celle entre Ebla et Kish, mais naturellement une route uniquement terrestre comportait beaucoup plus de kilomètres, peut-être plus de 1000. Il s'agit d'une distance abordable quand même, qu'implique un voyage qui traversait tout le Levant sud. Et à mon avis, on a des raisons de supposer que des voyageurs provenant des Blas, avant de voir apparir l'écriture égyptienne, plus ou moins à partir d'ici, ce voyageur, quand il était dans cette région-là, passait pour d'autres régions littrées, mais en cunéiforme. Donc, comme je pense que, comme c'est sûr que les cunéiformes arrivaient ici, et on peut espérer qu'on trouvera des choses ici, les cunéiformes à la moitié du troisième millénaire, une cunéiforme bien attestée ici, je pense que cette partie-là, qui est la route terrestre pour arriver à Memphis, voyait des palais, de familles d'élite qui, pour des raisons locaux, pas nécessairement pour une très grande correspondance internationale comme à l'époque de Marie ou d'Amarna, mais qui avaient pratiqué les cunéiformes. Et la prochaine fois, je donnerai quelques éléments pour mieux déterminer ça. Ouais, ça c'est fait. Donc j'aborderai la prochaine fois la question du Levant du Sud dans le texte de Blas, quelque chose qui me conduira aussi à entrevoir les oasis de l'Arabie nord-occidentale, Taïma étant distante de Blas qu'un peu plus de 900 km à vol d'oiseau. Donc vous voyez au fond quels sont les 5 points de repère autour de Blas, Quiche est sûr, les autres moins, mais il faut arriver à inclure Cultepe, Memphis et Taïba. Et la communauté scientifique est d'accord sur Quiche seulement. Donc il y a encore un grand débat à faire entre nous pour trouver de bonnes solutions aux problèmes qui nous ont encore aujourd'hui. Et je termine avec ça, avec cette diapo, je vais parler des tablettes d'argile trouvées dans une région complètement différente, d'une manière imprévue. Parce que les tablettes cunéiformes des Blas pré-sargoniques sont, à ma connaissance, dans le temps et dans l'espace, les objets comparables plus proches à cette extraordinaire trouvaille qui a été faite ici par les Français en Égypte. Je me réfère aux tablettes administratives d'argile inscrites en hiéroglyphique hiératique fouillées à Balat, à Ain Asil, dans l'oasis de Dakhla du désert occidental, et qui sont datables à quelque peu avant 2175. Donc, un peu après Ebla, et alors je ne pense pas du tout à une relation génétique directe, non, mais je pense qu'il faudra inclure dans les prochaines discussions aussi cette trouvaille, parce que c'est surprenant de voir l'argile utilisée comme support pour une écriture qui en effet n'est pas du cunéiforme, mais dans des textes administratifs avec des chiffres et des quantités notées. Et je répète, Ebla est l'endroit le plus proche actuellement aux tablettes de Dakhla. Et alors, je termine aujourd'hui ici. J'ai parlé des choses. Je parlais d'une manière pessimiste au début et je continue à dire qu'on a une quantité énorme encore de problèmes à résoudre Et c'est pour ça que je suis optimiste. Parce que, parce que quelqu'un, dans le futur, certainement se mettra à résoudre le problème. Donc, il s'agit d'une documentation qui est certainement formidable, qui n'a pas terminé de nous donner des renseignements structurels sur les proches anciens, même si c'est une documentation petite, périphérique, donc périphérique, mais périphérique, peut-être pas trop périphérique, parce que si vous voyez, on est au centre de quelque chose, pas à la périphérie, hein, on est au centre. Les gens qui font la Mésopotamie sont naturellement de très bonnes raisons pour nous dire qu'il faut aller là pour trouver les textes, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, la périphérie est là, hein, pas ici. Et le problème, j'essaie de vous montrer le mélange difficile à débrouiller, des problèmes ponctuels philologiques, des problèmes d'outils de travail, des problèmes de compréhension des structures de base qu'il faut mettre au feu pour ne pas donner l'impression que bla était bla 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 plutôt que blibli. Il faut encore discuter sur l'interprétation générale de cette documentation petite, mais pour l'instant extraordinaire, et probablement dans les prochains futurs, je crois, moins isolée qu'aujourd'hui. Et cette affaire de la difficulté de faire des comparaisons avec d'autres documentations est la source principale des problèmes que nous avons. Les gens qui font les paléo-babyloniens, les bronzes tardifs, les premiers millénaires ont pu jouer avec des documentations proches qui enrichissent chaque fois l'autre documentation. Et ici, on a du mal à jouer avec d'autres textes. Et il faut continuer pour l'instant à faire des recherches internes en attendant une nouvelle choc, comme le choc causé en 1975 par les trouvailles que j'ai discutées au début de mes cours. Et je crois pour aujourd'hui d'avoir terminé. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.